CPU, carré et petit utile.
Le dernier invité est en train de regarder Solarus qui est en train de s'étouffer. Je crois qu'il... Arrête. Appelez les secours, on a un problème avec Solarus. Il a pas compris que le...
Je crois.
Non, mais je crois que le pitch en une minute, il a pas compris que c'était pas manger un pitch en une minute. Bah oui, c'est à toi.
Oui.
Bah présente ton invité.
Très bon, très très bon. Je vais l'aider, je vais l'aider. Je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi, mais je me rappelle encore de mon nom.
Bonjour.
Bonjour. Voilà. À vous.
Allez,
donc alors ça arrive.
Des fois ça se
je sais pas dit micro, je crois, si, c'est bon.
Alors, ouais, vas-y. Ouais.
Donc David, bonjour, tu es avocat tu évolues dans la sphère des startups, tu es bénévole au Startup Weekend. Tu as commencé comme bénévole, tu me disais.
C'est ça, en fait, j'ai commencé le premier Startup Weekend à Toulouse a été organisé par Willy Brown que certains connaissent dans la communauté qui a bien grandi depuis le petit puisque il a été secrétaire général de France Digital et qu'il est maintenant il y travaille maintenant dans le fonds d'investissement Daphne qui a été fondé par Marie Ekland qui était auparavant dans un autre fonds d'investissement Elia Partners. Et puis moi il m'avait sollicité comme pour être coach juridique pour les équipes. Et puis petit à petit moi je viens d'une famille un peu paysanne donc on laisse pas les gens rien faire donc j'ai donné un petit coup de main c'est ce que je disais à Solarus on sort les sacs poubelles etc. Et puis petit à petit je me suis intégré dans l'organisation et puis maintenant je suis co-organisateur très actif depuis 4 saisons sur le Startup Weekend, ce qui est une manière aussi de rendre à la communauté ce que la communauté m'a offert puisque je travaille beaucoup avec des startups. J'ai commencé ce métier d'avocat il y a maintenant 10 ans et j'ai commencé dans un cabinet qui travaillait beaucoup avec des entreprises innovantes et je me suis retrouvé à accompagner des porteurs de projets qui sortaient notamment de l'incubateur des sujets très techno et petit à petit je me suis intégré dans cet écosystème et je pense que les gens aussi apprécient mon intervention, je l'espère en tout cas.
Le fait d'organiser, alors toi tu as regardé, c'est comment c'est se dire non ils vont se planter ou ils vont se planter.
Ni l'un ni l'autre. Non, ni l'autre. Alors, il faut savoir, le Startup Weekend, les espérances et les attentes des participants sont très différentes. Certains sont vraiment dans la compétition et veulent gagner. Et on l'a vu sur les éditions précédentes particulièrement. Et d'autres sont là, à mon avis, pour ce qui fait le sel du Startup Weekend, c'est-à-dire avant tout une aventure humaine. Confronter son idée dans un environnement finalement très bienveillant, mais bienveillant ne veut pas dire non plus coulant, et si l'idée qu'on développe n'est pas terrible, les coachs ou les mentors ou les jurys sauront le dire. Mais c'est surtout se confronter à d'autres types de profils, rencontrer des personnalités ou des personnes qui travaillent dans des secteurs qui ne sont pas du tout les nôtres. C'est particulièrement vrai des étudiants, puisque quand on fait une école d'ingénieur, on croise rarement les gens qui font, qui sont à Toulouse Business School ou peut-être éventuellement dans un bar, mais professionnellement.
Donc il y a un aspect, réseautage, vraiment rencontrer
exactement.
Du monde, vraiment peut-être
décloisonnage, je dirais.
Décloisonnage, d'accord.
Parce que le système français est très cloisonné. Il n'y a pas de campus à l'américaine, d'accord. Donc les gens se croisent pas, les talents et les formations ne se croisent pas malheureusement.
Il faut rencontrer là où les personnes qui vont peut-être faire avancer le projet ou qui vont permettre de rencontrer la personne qui va faire avancer le projet. Quoi.
Exactement.
Il n'y a pas que de la technique peut-être et il y a beaucoup d'humains je pense dans le lancement
d'une
start-up.
Tout à fait, mais ça c'est ce qu'on essaye de faire passer aussi à travers le Startup Weekend, c'est que beaucoup de start-up font du storytelling et mettent en avant leur tête de pont, leur président ou leur fondateur, mais une start-up ne réussit que parce qu'il y a une équipe de qualité.
Ouais, ça c'est une critique qu'on fait beaucoup aux start-up, c'est-à-dire qu'il y a on a l'impression des fois qu'ils communiquent plus que... Ils bossent beaucoup sur la communication et pas assez sur le projet en lui-même. Il y a un designer d'Apple qui disait « Don't tell, just show. Don't promise, just deliver. »
Heureusement que Chris est loin, je crois que...
Donc voilà, donc, à un moment, il faut peut-être arrêter de communiquer, arrêter de parler et montrer des choses. Et est-ce qu'il y a beaucoup de start-up qui arrivent à justement à franchir le pas de juste faire de la com et à un moment d'avoir quelque chose à proposer, d'avoir quelque chose à montrer.
C'est une très très bonne question. On voit les deux choses. Malheureusement, il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire qu'on vit dans, à mon sens, dans une société où la communication est reine et bien souvent, bien trop souvent, la forme prend le pas sur le fond. Malheureusement, la communication, même si on n'aime pas ça, c'est quand même un mal nécessaire. On ne peut pas faire un produit de son côté, dans son coin, dans son garage, et espérer que quelqu'un le découvre et l'achète ou utilise le service qu'on a développé. Donc la communication est considérablement nécessaire. Et c'est vrai que lorsqu'on est face à des startups qui ne font que communiquer, qui n'annoncent que leur levée de fonds, qui sont dans le tweet ou dans la page Facebook, mais que derrière ça ne suit pas, c'est un petit peu décevant. Cela dit, on en connaît, hein, certains gourous des startups à Toulouse ou même en France sont très très forts en communication. Sont très très forts pour lever des fonds, mais parfois dans l'exécution c'est un petit peu plus compliqué.
Tu penses à iTrust?
Je pense pas du tout à
iTrust. On balance pas.
Je balance pas. On
va avoir des problèmes en plus.
Non,
parce qu'il est grand.
C'est des potes et ils savent que je les chante. C'est normal. Mais des fois, il y a aussi tout axé sur la communication. Des fois, c'est aussi refuser des fois la critique. Et c'est s'enfermer un peu de ce côté-là.
Je ne sais pas si c'est refuser la critique. Je ne sais pas si c'est une stratégie pour éviter la confrontation. C'est peut-être aussi parfois pour masquer des manques et en tout cas c'est pour occuper le terrain. Mais c'est vrai que quand à un moment lorsqu'on ne fait que communiquer et qu'on est out of premise, ça devient un petit peu compliqué.
Donc on l'a dit, tu es plutôt dans le droit des affaires, tu coaches un peu les startups là-dessus.
Ouais.
Quand on veut devenir le nouveau Google français ou le nouvel Apple européen, est-ce que, notamment je pense à la propriété intellectuelle et le droit des brevets, est-ce que ça peut intimider des gens innovants qui ont des idées techniques mais qui pourraient se dire « Ah bah c'est peut-être que Google ou Samsung l'a déjà breveté, est-ce que ça vaut le coup que je me lance là-dedans ?»
Je pense que Google ne s'est pas créé sur des brevets, en fait. Si vous voulez, il y a très peu de brevets qui sont vraiment innovants et qui sont un vrai frein à l'innovation. Le brevet, en fait, donne un monopole d'exploitation à celui qui est propriétaire de l'invention. Mais vous protégez une invention. Si vous arrivez au même résultat avec un procédé technique différent, vous ne serez pas contrefacteur du premier brevet. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de brevets marketing. Ça vient des États-Unis où l'Office des brevets a accepté de breveter tout et n'importe quoi.
Ce qui n'est pas brevetable en France, notamment les formules mathématiques et effectivement les méthodes de business.
Mais plein d'autres choses, ouais. La manière de passer d'une page à l'autre en utilisant son doigt sur un écran tactile.
Voire même des thèmes extrêmement vagues, ça c'était très bien expliqué par Ferguson dans sa suite documentaire sur les idées.
Tout à
où
fait.
En fait, un procédé informatique pour faire tel truc.
Exactement, et en fait ça a donné naissance à ce qu'on appelle les troll patents. En fait, c'est des gens qui sont propriétaires de brevets, qui les mettent dans une boîte qui est une société et qui n'a d'autre que vocation que d'attaquer en justice ceux qui souhaiteraient faire quelque chose de comparable.
D'accord. Donc ça, c'est pas vraiment un frein pour
non,
ceux qui voudraient
se lancer.
Non, à mon
sens, c'est pas un frein. C'est vraiment pas un frein. Il faut y aller. Après, on peut avoir des obstacles juridiques qui peuvent se dresser contre vous, mais finalement, c'est une contrainte avec laquelle il faut travailler, comme la contrainte argent, comme la contrainte temps, comme la contrainte concurrence.
Justement, la contrainte argent, les banques, est-ce qu'elles arrivent facilement à financer une start-up ? Parce que je discutais donc avec un patron d'une petite entreprise qui me disait la banque, elle ne finance pas les salaires. C'est-à-dire qu'elle peut financer du matériel, elle peut financer le lancement d'entreprise. Par contre, il faut assez vite trouver un business model pour... À la limite, rester en auto-entrepreneuriat, mais dès qu'on veut un ou deux salariés, il faut un financement et ce n'est pas la banque qui va l'apporter. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de startups qui arrivent à sortir de ce modèle de l'auto-entrepreneur, du gars qui est tout seul, qui va lancer son idée ? Est-ce qu'il y a des difficultés là-dessus ?
Alors, on a un problème de financement en France. Effectivement, je pense que les banques ont un problème pour financer l'économie, mais en général, pas les startups simplement. Je pense qu'on a des attitudes très conservatrices. Et la problématique, c'est que les... Alors, je ne vais pas forcément me faire des amis, mais peu importe. Le profil des banquiers se dissémine à travers tous les ports de l'économie. On les retrouve dans des directions financières, on les retrouve dans les fonds d'investissement. Et on a des approches très frileuses. Et à mon sens, toutes les liquidités qui sont balancées par la Banque Centrale Européenne, on a du mal à les retrouver dans l'économie. Donc ça, c'est un vrai souci. Et pour en revenir sur le sujet des startups... le premier financeur de start-up en France, c'est Pôle emploi.
Oui, tout à fait.
Puisque beaucoup de gens créent leur entreprise en demandant le maintien de leurs allocations chômage.
Surtout que maintenant, c'est plus la moitié de l'allocation chômage, c'est l'intégrité en fait du
solde. C'est l'intégralité, ouais, effectivement. Ouais. En fait, on a toujours le choix de le demander soit en capital, soit avec une décote, soit sous forme de rente pendant sa période d'indemnisation, avec une petite décote également, mais un petit peu moins forte. Mais ça, c'est vraiment le premier fournisseur de fonds. Et puis ensuite, lorsqu'on se développe, souvent on fait appel à la famille et aux amis, ce qu'on appelle la love money, qui permet de lever jusqu'à entre 5 et 30 000 euros. Et puis après, soit on a un business model, soit on a besoin de se caler un petit peu. Si on a besoin de temps pour augmenter son équipe, bah on va chercher des business angels qui vont fournir le premier tour de financement.
Ok.
Une petite dernière pour la route.
Ouais. Je vais essayer d'être court.
Si l'un de ceux qui va se présenter décide de vraiment monter sa boîte, toi en tant que juriste, quel est le premier conseil ?
Quel est le premier conseil ?
Ouais.
Vérifiez bien que les gens que vous avez dans votre équipe sont motivés à fond pour continuer l'aventure, parce qu'il n'y a rien de pire que de s'apercevoir 6 mois après qu'on a pris un associé qui n'est pas du tout en phase avec le projet et qui n'a pas la même implication que les autres.
Merci beaucoup David Morel.
Merci
à vous.